une prochaine fois de façon directe notre thème de la Mishnah, sinon par un lieu, mais le thème général de la Mishnah, c'est, je pense qu'on pourrait appeler les causes éventuelles de l'excommunication. Alors, l'excommunication, c'est un thème pour le moment encore très vaste, très général, que j'emploie. C'est un thème d'ailleurs qui fait partie de la mentalité du vocabulaire moderne, mais voilà de quoi il s'agit. Le sujet est à quelles conditions négatives éventuelles l'identité matérielle peut être perdue. Et la question est abordée par un biais bien précis. C'est la définition d'Israël comme, celle qu'elle nous a donnée dès le début de la Mishnah, comme possédant par droit d'existence, par nature, ce que la Mishnah appelle Chelek La'olam. Une part pour le monde à venir. Une part au monde à venir. Première définition, Israël égale, pour l'Israël d'Israël, Chelek La'olam. Israël égale Chelek La'olam. Est-ce que cette identité-là, qui est donc évidemment définie comme droit de nature, au niveau de l'existence et non pas des croyances, peut être perdue? Voilà quel sera le thème que nous devons aborder immédiatement. La difficulté, c'est de se demander comment des opinions, des croyances peuvent faire perdre une identité de nature. Ce sera déjà la première analyse que nous devons aborder. Et dès le début, on s'aperçoit qu'il y a toute une série de postulats qu'il faut mettre en évidence. Tout se passe comme si, pour la formule même de la Mishnah, cela va de soi que cette équation que je viens de signaler, Israël égale Chelek La'olam. Le sujet de la Mishnah étant à quelles conditions ça peut être perdu, mais il y a donc des postulats préalables. Tout cela s'exercera au fur et à mesure de l'étude. Donc le sujet sur lequel nous allons réfléchir, sur ce premier point de ce que j'ai appelé très provisoirement l'excommunication, et parce que je ne dispose pas d'autres termes en français, c'est-à-dire dans quel cas on risque d'être mis en dehors de l'identité Israël, mais dans la perspective de cette équivalence, Israël, c'est-à-dire Chelek La'olam. Est-ce que les mots sont clairs pour tout le monde? Il y a chez le commentateur une discussion qui se greffe sur cette première discussion que nous avons abordée, ce premier terme. C'est comment comprendre cette équivalence Israël égale Chelek La'olam. Est-ce que même celui qui aurait perdu Chelek La'olam ne garderait pas, d'une certaine manière, la dénomination Israël quand même, en tout cas pendant tout le temps où il continue à vivre dans la Mazel. Et certains auteurs, et il semble que Maïmoni dirait dans ce sens-là, que même si quelqu'un a perdu son Chelek La'olam haba, il reste quand même dans la définition d'Israël, mais avec une nuance, Israël nomar, c'est-à-dire Israël renégat. Mais, et vous voyez, comme nous sommes tous gênés par le vocabulaire français, mais enfin, essayons d'entendre en hébreu. C'est-à-dire que ça va dans le sens de la première indication que j'ai donnée tout à l'heure, qu'il y a là un problème extrêmement difficile, en tout cas pour nos catégories contemporaines, comment mettre sur le même plan une donnée de nature, d'existence, une manière d'être, et d'autre part, un problème de définition par l'option de croyance. On va énumérer un certain nombre d'attitudes idéologiques qui sont censées faire perdre le Chelek La'olam. Mais comment mettre ça sur le même plan? Et nous voyons tout de suite que la Gemara refuse qu'on mette ça sur le même plan. C'est-à-dire, d'un côté, il y a une définition de nature, de l'autre côté, des options de croyance. Ce n'est pas dans le même monde. Nous retrouvons là une définition que j'avais souvent citée dans d'autres études, que vous avez certainement rencontré vous-même dans vos propres études. C'est-à-dire, cette identité qui est nommée Israël n'est pas un problème d'option de croyance. C'est, si vous voulez, pour reprendre le même vocabulaire, nous sommes censés être selon quoi d'autres croient. C'est-à-dire, le problème de la foi, d'une façon générale, dans la civilisation contemporaine, et probablement depuis très longtemps, ça ne vient pas de nous, de n'importe où. Ça vient de quelque part, comme je veux dire, c'est défini d'abord comme une option dans les catégories de croyance. Ça passe par l'adhésion à telle ou telle idée, sous forme de foi. Mais nous allons aborder tout de suite la réflexion de la Gemara qui nous permet d'inverser cette manière de poser la question. Pour la tradition juive, Israël veut dire une manière d'être. Alors, bien entendu, cette manière d'être, lorsqu'elle a à s'élucider, à dire ce qu'elle est, aura par conséquent des actes de foi. Mais l'acte de foi ne vient qu'exprimer une existence et ne la conditionne pas. Alors que chez Elohim, nous voyons immédiatement, c'est l'inverse. C'est l'option de foi qui conditionne l'existence. C'est-à-dire exister, par exemple, dans l'exemple de la situation de l'homme, exister en tant que chrétien, c'est croire en un certain nombre de choses. Cette croyance impliquant une règle de conduite. Mais c'est la croyance qui est centrale. On dit qu'exister en tant que juif, c'est être d'une certaine manière. Et cette manière d'être s'exprime dans une... Alors là, peu importe le vocabulaire, vision du monde, conception du monde, croyance, article de foi, mais c'est la manière d'être qui est première, et lorsqu'il y a à poser la question de confiance, entre guillemets, en quoi cet être croit, alors il dit en quoi il croit. Et celui qui ne croirait pas en ce en quoi cet être croit, ne ferait pas partie de cet être. Point d'interrogation. Problème. Comme ça, non. Pourquoi problème? Parce que pour nous, nous voyons que la question de l'excommunication, pour reprendre ce terme, aucun rapport avec Spinoza, pour aucun rapport. Eh bien, c'est pas simple comme problème. Parce que c'est à un niveau d'existence que cette définition nous sera donnée. Or, nous voyons tout de suite que, semble-t-il, la Mishnah, tranquillement, va énumérer comme clause de perte de Chélek Laolam Haba des affaires de croyance, des problèmes de croyance. Et donc, voilà notre sujet, la difficulté de notre société. Là-dessus, pour se greffer, mille questions que vous avez posées d'ailleurs vous-même, je suppose, du point de vue de la méthode, puisque nous sommes en limite. Bien évidemment, ce n'est pas la peine d'attendre la fin de l'exposé si vous avez des questions. Si elles font partie du sujet, vous m'avez dit. Alors, première proposition, Kol Israël, Yeshlaem, Chelek, Laolam. Et tout Israël, il y a pour eux, le Lahem est au pluriel, non seulement pour chacun. Lorsqu'un être collectif est mis au pluriel, donc la difficile, ça veut dire que ça désigne chaque individualité. Si on veut désigner la généralité, alors on met au singulier. Vous savez, si par exemple, il y avait l'expression Kol Israël Yeshlo, Chelek Laolam Haba, bon, c'est hypothétique, puisque ce n'est pas l'expression que nous avons, le lot désignerait tous dans la généralité. Mais puisqu'il y a Yeshlaem, le pluriel, ça veut dire chacun. Tout de suite, les législations actuelles, chacun entend qu'il participe de cet être collectif. Kol Israël et Israël, parce qu'ils sont dans le Kol Israël. C'est-à-dire, si on se demande ce qui fait l'assurance à nous que Kol Israël et Israël créent la Olam Haba, c'est pour chacun, mais ça vient de ce que chacun participe de l'être collectif. C'est-à-dire, un niveau de l'être de chacun au niveau où chacun est inséré dans l'identité collective. Et donc, il y a des degrés. C'est plus ou moins évident, c'est plus ou moins explicite, c'est plus ou moins exprimé. Mais c'est indélébile, c'est indéniable. Il y a là une catégorie qui est un cloud, un cloud, ça veut dire une humanité, et c'est pas un lafafra, ça veut dire c'est pas un riboul, ce n'est pas le plus grand nombre. En général, au niveau de la halakha, on arrivera très rapidement à établir que lorsque la Mishnah dit tous, ça veut dire qu'on va dans la direction du plus grand nombre. C'est une option pour le plus grand nombre. Mais ici, c'est vraiment Kol Israël Yesh Lahem. Parce que ça appartient à chacun. Bien, on pourrait commencer l'analyse en partant de chaque mot. De Kol, de Israël, de Yesh, de Lahem, de Chelek et de Laolam. Je partirai aujourd'hui sur le Yesh. Ça veut dire, Yesh est un présent. Et c'est un présent ontologique. Il y a. Il faut découvrir ce « il y a » dans son sens métaphysique. « Yesh ». C'est un auxiliaire. « Kol Israël »,« Yesh ». Ça veut dire « il y a » déjà maintenant, pour eux, un « chélek » là. Il y a », même si ce « il y a », c'est caché. Même si c'est ça qui est, je citerai une des phrases de leitmotiv de l'enseignement du Rabbi, il dit toujours avec un petit sourire dans les yeux, « Tous les Juifs sont des Juifs, même les Juifs purs. » Vous voyez pourquoi ça a l'air d'être du côté. Ça veut dire qu'il faut d'abord découvrir, pour voir si c'est clair, il faut découvrir une évidence. Yes. Et bon, je pense que c'est suffisamment clair, mais après, comment ? Parce que ça pourrait ne pas être évident. Parce qu'on pourrait croire que c'est parce qu'ils sont pieux qu'ils sont riches. C'est-à-dire qu'ils ont. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'à priori, ça n'a rien à voir. Bon, je pense que c'est clair. C'est d'abord ce qu'il faut découvrir. Bon, quelle est la question de fond ? Qu'est-ce que c'est que ce racisme spécificiste, spécifique, on dit, peu importe, que cela n'est pas les autres. Nous savons qu'il y a aussi les autres. Mais pour le moment, on s'occupe d'Israël. Il y a aussi la Mishnah qui dit « Chassidé au monde d'Arlam, yesh, la emprélé par la maman ». Il ne faut pas s'affoler. Mais je veux dire que cette identification ne vient pas comme chez les Chassidés au monde d'Arlam, parce qu'ils sont des Chassidines de monde d'Arlam. Pour Israël, il vient de ce qu'ils sont Israël. Israël, ça veut dire les enfants de Jacob, premièrement.
Il y a un caractère étranger là-dedans, dans quelque chose de famille.
Quoi donc ?
Justement, cette implication, même les pieux, par exemple, on pourrait les attendre.
Bon, c'est une blague, mais...
Oui, bien sûr, mais justement, ça souligne un caractère étranger, quelque chose qui paraît aller de soi.
Ça veut dire que si on définit l'identité d'Israël par la piété, ça nous est étranger. Il faut tirer. Ce sont deux arachim, deux valeurs différentes. À l'indice du niveau d'être, c'est comme un niveau d'être. Un corps a une âme. Un corps sans âme, c'est pas quelqu'un. Mais c'est un corps qui a une âme. Une âme sans corps, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, pour le dire dans ces autres livres. Si vous voulez, Torah, Tziva, Alou, Moshe, Moracha, Kila, Yaakov. Yaakov, un point. Alors bien sûr, Yaakov sans la Torah, c'est pas vraiment Yaakov. Mais ce Yaakov qui sans la Torah n'est pas vraiment Yaakov, il est vraiment Yaakov comme Yaakov. Je pense que c'est ce qu'il faut d'abord découvrir. C'est-à-dire, comme Israël, il n'y a jamais fait pas. Et il n'y a pas dans ce comme Israël une définition idéologique, comme on dirait. Il y a une définition, mais alors le mot me manque. Je ne peux pas dire ethnique, parce que Tanger qui devient Israël, c'est Israël. Or, si c'est une définition ethnique, on ne pourrait pas avoir de guérir. Or, il y a des guérir, à condition qu'il soit vraiment en guerre. Pas guère vraiment, mais les filles à la femme. Donc, ça devient qu'Israël est rôle de l'homme. Donc, c'est pas que ethnique. Il y a une spécificité, elle est indéniable, mais puisque c'est une spécificité qui s'acquiert, donc on est dégagé du problème des catégories, disons, ethniques ou racistes. Ensuite, on les retrouvera. Qu'en fin de compte, oui, eh bien, il y a une ethnie juive, oui, il y a une race juive, mais c'est pas dans le. Définit ça de la même manière que sont censés le dire les ethnologues ou les anthropologues ou les zoologues ou les biologistes. Je pense que c'est clair. Donc je voulais insister là-dessus, sur le yesh. Yesh, ça veut dire yesh déjà, maintenant. Yesh, là, voilà, maman. Et c'est pourquoi j'ajoutais, je crois que c'est très important, même si c'est pas visible, même si c'est pas évident. Nous vivons d'ailleurs dans un temps où tout ce qui est évident, c'est que parfois ce yesh apparaît sous forme d'indice négatif. Je ne vais pas introduire des analyses de psychologie dans ce problème, mais je pense que vous comprenez clairement de quoi il s'agit. Et seulement, il faut se garder de cette espèce, comment dire, de prophétie, qui consiste à préférer être juif à l'indice négatif. Ce yesh peut devenir un indice négatif, mais. Il est ontologique. Simplement, je lisais très récemment, et je relisais, si vous voulez, très récemment, l'article que Albert Rémy a ajouté au livre de sur Freud, comment ça s'appelle, c'est machin. Par contre, la mystique, Freud et la mystique, Freud et la mystique, qui est l'auteur, qui revient chez Rémy, qui m'a frappé, fasciné par la définition négative. C'est-à-dire, pour ceux qui ont lu l'article, ça nous est sûrement évident immédiatement, que être juif, ça veut dire être l'homme du refus. Et alors, ce qui est subreptice du refus de l'identité juive, une espèce de jeu de glace inversé, et où on voit un exemple contemporain de ça. C'est que ce Yesh est ontologique, absolument existant, mais que parfois. Bon, ceci dit, donc, pour élucider le terme de Chélek très rapidement, et nous sommes habitués à lire, et d'ailleurs c'est facile, parce que Chélek, ça veut dire une partie, dans le sens de Chélek de Nachala, un héritage que l'on reçoit, une part que l'on reçoit, et que, à tout Israël, il y a un Chélek de Nachala qui leur appartient. Il y a une sorte de vocabulaire spatial que nous avons ici, il y a le Nachala. Et nous avons déjà une sorte de chèque sans provision, je ne sais pas comment dire, de Amcha, de...
Avec provision.
Avec provision. Non, parce que la provision est là-bas, mais le chèque est ici. Et une sorte de route, de droit à l'avance, de recevoir cette partie du Olam Haba qui concerne chacun d'entre nous. Ceci est la lecture habituelle et classique, et ça nous permet de lire un peu autrement. Comme Israël Yeshlaem, Chélek, la Olamaba, et non pas Ba Olamaba. Jusqu'à présent, nous avons vu comme s'il y avait Ba Olamaba. Dans le Olamaba, il y a un Chélek qui m'appartient. Tenez, j'ai une stalle préparée là-bas. Mais dis-le un peu autrement. Comme Israël Yeshlaem, à chaque membre d'Israël, il y a en lui un Chélek, une part de lui, la Olamaba, qui est déjà prête, dirigée vers le Olamaba. Vous pouvez les prendre cette lecture sous forme de rythme. Elle colle au pchat, peut-être que c'est un pchat, mais enfin, prenez-la sous forme de rythme pour mieux comprendre. Il y a un chélek de chacun qui est précisément ce point de participation à l'identité collective et qui, par conséquent, surtout dans les modalités de la conscience contemporaine, cette dimension de chaque être est cachée. Elle n'est pas explicitée, elle n'est pas visible. Nous ne vivons pas dans un temps où ces choses-là sont évidente, aussi évidente que dans, au niveau de la Mishnah. Que dans chaque individu, il y a un point de son être qui fait partie d'un ensemble. Et que c'est de ce point-là qu'il est parlé en disant le chélek de chacun, qu'il est moucham, la olamaba, qu'il est déjà prêt, qu'il est indestructiblement Israël, et d'où le problème de tout à l'heure, à quelles conditions l'occultation de ce point Israël est telle. Quand on va prendre acte qu'il a disparu. Est-ce que c'est bien clair? Vous voyez comment les deux données sont liées. Si on comprend bien le Yesh, alors on comprend aussi le Chélek. Yesh, maintenant, un Chélek, là, voilà. Vous voyez comment les choses sont. Bon, jusque-là, c'est bien clair, on peut avancer. Alors, on vient maintenant à la justification de cette supposition, de cette formule. Quel est le terme implicite qu'il y a déjà dans cette formule, comment récupérer cette évidence? Vous voyez comment s'exprime la Mishnah. Ça va de soi. On ne fera pas de traité théologique pour démontrer qu'il y a un Olam Haba. On embraye sur une évidence comme Israël, Yeshlaem, Chélek, Olam Haba, et tu sais de quoi je parle. Si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est que tu n'es pas concerné, et puis on s'occupe d'autre chose. Vous voyez comment je paraphrase, n'est-ce pas? Mais il faudra pour nous récupérer cette évidence. Semble-t-il, il y a quelque chose qui va de soi. Mais en quoi? Cela va tout de suite. Que Kol Israël, le ridouche de la Mishnah, c'est sur le Kol. Et vous verrez vous-même, Rashi, si nous allons le lire, Rashi va nous dire jusque-là, dans la main de Sérène, ça nous est dit, on va établir tous ceux qui sont passibles de la peine de mort, de la peine de mort biologique, sur terre qu'on n'a jamais appliquée, comme vous savez, et des abominables de Dieu. Donc voici ceux qui sont passibles de la peine de mort. Mais même passibles de la peine de mort, et même exécutés, Yesh Lahem Chélek La'olam Haba. Ils n'ont pas au monde à venir. Et donc, le chidouche est dans le code. Tout Israël, même les condamnés à mort, sont Israël dans le sens de qu'ils ont Chélek La'olam Haba. Nous avons un petit décalage à retrouver à un certain moment, ce que j'ai cité au nom de Maïmoni tout à l'heure, dans les Chosmandim, dans les lois qui traitent de ce qui est remis l'identité d'Israël, est-ce qu'ils sont encore Israël, on établira là-bas qu'ils ont perdu le maintenant de leur Olam Haba, le Yesh maintenant de leur Olam Haba. Et c'est ce qu'ils expriment en exprimant leur reniement. Tout se passe comme si nous avons assisté au fait qu'est-ce que chacun dit de lui-même, et on prend acte. Mais ils sont quand même Israël, mais dans un indice négatif limite, Israël ou Mouma. Israël renégat. Ça veut dire quoi? Que le repentir est toujours possible. Et là, c'est un processus de, juridique très complexe de savoir si automatiquement le repentir le restitue la privilège d'Israël très déclaré ou s'il faut une procédure de régénération ou s'il faut une conversion de nouveau, comme s'il s'agissait d'un étranger qui vient et non pas d'un, de quelqu'un qui est parti et qui revient. Il y a quand même une dimension optimiste qui est que le repentir est toujours possible théoriquement. Est-ce qu'il est possible concrètement? Est-ce que quelqu'un qui a fait ce renouvellement peut réellement concrètement faire le retour, le revenir? Ça, c'est un problème pratique. Mais théoriquement, le repentir est toujours le retour. Donc, maintenant nous abordons le machma. Le machma, c'est-à-dire la justification de la donnée de droit chez la ajoutée par le verse. Je vous parle de la méthode. Très rapidement, vous savez qu'il y a deux méthodes de la loi orale, la méthode de la Gomara, de la Mishnah, et la méthode du Minhag. Tant pour la Halakha que pour la Hagana. La méthode du Minhag, c'est à partir du verset mettre en évidence une interprétation du verset. Par exemple, si vous étudiez le Minhag Tama, vous voyez que cela suit non pas l'ordre des sujets, mais l'ordre des versets. Le Midrash Rabbah, le Midrash Hakhama, d'autres recensions de Midrashim. Alors, on lit le verset, et puis il y a une dracha qui ouvre le verset, qui met en évidence une implication du verset. Ça, c'est le Midrash. Donc, la méthode du Midrash va de la Torah Shevirtav à la Torah Shevirtav. Tandis que la méthode de la Mishnah, et donc de la Gemara, le but, c'est de rattacher la formule de la loi orale à la loi écrite. C'est-à-dire, dans la Mishnah, on aboutit au verset. Tandis que dans la Midrash, on parle du verset. Alors, nous avons ici une phrase très claire. C'est une méthode. Comme Israël est déjà un peu le plan de la Vous avez la référence dans le commentaire de Chagall, chapitre 60, verset 21. Amir, singulier, Amir. Koulam, tous, Yogel, donc chacun, s'habitue, ce sont des juifs, Léolam, Hirshu, Aret, à jamais, éternellement, Léolam, Hirshu, Aret, ils aimeront de la terre, Metzer, Mataral, rejetons les plantations, c'est le Koulam, Maasé, Yadar, et Israël, œuvre de mes mains, comment glorifier. Donc nous allons essayer de mettre en évidence très rapidement le machma. Vous connaissez cette œuvre, donc j'ai compris, le machma. Comment t'as vu, machma? Signification. Implication. Et il y a à la fois l'idée que comment le raisonnement relie ces deux données. Quelle est la signification du verset qui mène à la Torah Shebaal-Peh de dire ici, j'ai une base à ce que je vous dis, que quand Israël et Israël prégorent. Il est bien évident qu'il y a deux mots importants dans le verset pour notre analyse, c'est Koulam et Tzadik. Ramer Koulam, donc Kol Israël, Ramer Koulam Tzadikim, donc Kol Israël et Israël prégorent. Et on a ici une équivalence simple, prégorent parce que Tzadik. Tzadik, donc prégorent. Bien sûr, il y a autre chose. Il y a les orvans, Hirshu, Aret, Netzer, Matarai, Maasé, Yadav et Utbaer. Tout ceci vient nourrir ce machma. C'est des dimensions d'identification de Véramer et donc tous des additifs. Et à ce niveau que dit le prophète, ça, nous pourrons utiliser en parchanout. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, on va étudier chez les commentaires du verset. Mais pour notre raisonnement ici, on a donc cette équivalence que c'est saint tzadik, c'est celui qui a fait l'éclairage à ma part. Enfin non, je me suis mal exprimé. De cela nous pouvons dire du tzadik, il a fait l'éclairage à ma part. Voilà comment le tzadik se définit dans notre sujet, il a fait l'éclairage à ma part. Et donc dans la mesure où Amer Koulam tzadikim, alors que l'Israël et Israël sont l'éclairage. Cette évidence que nous cherchions tout à l'heure, en quoi cela va de soi que tout Israël a part au monde à venir, là nous avons la médiation. Ça va de soi parce qu'ils se définissent comme tzadik. Ce qui va de soi en réalité, c'est qu'un tzadik est réglé par là. C'est clair ? vraiment vous la question. Ça dit en tant que quoi? Cela que tout s'illucide, c'est pas visible. C'est que dans un peuple, il y a tout. Et c'est pas visible qu'un peuple tout entier, c'est un peuple très visible. Comprenez qu'il y avait quelle question ici. Et au fond, nous nous retrouvons ce par quoi nous avions déjà commencé. S'il s'agissait d'une congrégation religieuse, alors là, nous aurions des critères de jugement de valeur d'emblée. Mais il ne s'agit pas d'une congrégation religieuse. Il s'agit d'une nation. Il s'agit d'une manière d'être existentielle. Mais je sentais bien que tous les mots nous manquent. Parce que nous n'avons pas de comparaison possible avec un autre existant. Mais c'est le niveau d'être qui est défini. C'est une manière d'être avant d'être une congrégation religieuse ou autre. Donc, c'est par ce point d'insertion de l'identité individuelle dans l'être collectif qu'il y a la définition de tzaddik. À quel niveau à Merkulam tzaddiki? À ce niveau-là, du chérik dont j'ai parlé tout à l'heure. Et nous le savons du verset lui-même. Alors là, c'est chidouche, mais qui veut dire. Mais à Merkulam tzaddiki, si je mets l'accent sur l'expression ainsi, à Merkulam tzaddiki, qu'est-ce que ça devient? Et ton peuple, lorsqu'ils sont tous ensemble, c'est des tzaddikim. Vous avez suivi le glissement de sens. Alors, puisqu'il en est ainsi, vers Merkulam tzaddikim, alors c'est bien sur le point d'insertion de l'individu à la collectivité qu'il y a l'identité tzaddik existentielle de chaque individu. C'est clair? Vous m'étonnez que ce soit clair, si vite. Vous êtes un peu exposé. Je dirais un petit truc en français. Vous savez qu'on a dit des juifs qui sont le sel de la terre. Vous avez entendu ces juifs? Le sel de la terre. La moitié du monde. La chala du monde. Le sel de la terre. Et bien, quand les juifs sont unis, alors c'est l'universel de la terre. Entendu la scripture. Mais c'est dans ce sens-là. Ça veut dire que lorsqu'il y a vraiment unité, alors apparaît le fait qu'il s'agit d'un peuple de tzaddikim. L'identité rachat, le concept de tzaddik, est à l'échelle individuelle et elle apparaît dans l'éclatement de cette unité. C'est-à-dire quand le tzibour se défait, alors il y a d'un côté les tzaddikim, de l'autre côté les rachaïm, de l'autre côté les gononim. Vous connaissez ce tarikon de chassidim, ça vient du Hari d'ailleurs. Tzibour, là devient le Tzibour, Tzadé, et il dit Tzadik peut-être d'ailleurs dans l'alphabet. Tzadik, ça veut dire Tzadik. Vav, B, ça veut dire Benonim, Vavresh, Urshay. Et Tzadik, c'est Benonim, Urshay. Alors quand c'est ensemble, ça fait Tzibour, et puis si c'est éclaté, alors ça fait Tzadik, Benonim, Urshay. Et c'est une idée difficile, mais il faut bien comprendre qu'elle est là dans la Mishnah. Que ce n'est pas une thèse, ce n'est pas une idéologie, elle est là dans la Mishnah. Ça veut dire que même les Rasha'im sont des Tzadikim s'ils font partie de façon unie de la collectivité qui leur a donné naissance. Bon, ça, à partir de ce moment-là, du point de vue de la règle de la conduite, ça engage. Politiquement, moralement, bien sûr que ça engage. Mais ici nous avons une proposition énorme, inassimilable à notre mentalité contemporaine, à moins que l'on ne restitue le préalable. Et je ne voudrais pas trop parler de Hegel, mais enfin il semble que peut-être, dans la philologie hegelienne, on pourrait récupérer des catégories qui permettraient de véhiculer cette idée. Comme la philologie de Hegel ne peut pas être véhicule de la tradition juive, pas plus que l'autre d'ailleurs. En particulier parce qu'il y a un antisémitisme subtil qui coule dans toute la philosophie de Hegel. Mais il est là, s'il y a malgré tout une redécouverte de ce que l'identité collective est une réalité ontologique. Yes, il y a. D'ailleurs, il vient évidemment l'histoire d'Israël. Et je prends le mot d'Israël dans son sens le plus extensif, exhaustif, si c'est possible, depuis l'origine et partout. Et serait incompréhensible si on ne la renvoyait pas à l'histoire d'un être qui en soi est éternel, quelles que soient les péripéties qui atteignent les individus, et qui est Israël. et que c'est de cet être-là dont il est parlé, dans le monde de participation individuelle, chacun à son niveau, et chacun dans sa capacité. Alors vous allez me dire, mais est-ce que la pensée biblique admet cela aussi pour les autres nations? Oui, sans problème. C'est vrai aussi pour les autres nations. Et oui, les surprises du langage, ça c'est vraiment une coïncidence, une analogie purement formelle. C'est qu'il y a un mot moderne, un mot qui restitue cette intuition des racines. Si vous savez, maîtrise, quel mot apparaît en mot moderne avec cette colère? Dans cet avant-là, ça va. Oui, mais ça c'est une coïncidence. Ça va, ça veut dire l'étude de la peine. Saïd, Marie, Rana. Bien. Et maintenant pour la première. Si c'est bien clair, alors nous pouvons tout de suite aborder le point suivant de l'analyse. Si on a bien compris cela, c'est vers Merkulam, ça dit tout. Okay. Donc le Yesh porte sur le chérec d'insertion de chacun à la collectivité. C'est clair. Donc, à ce moment-là, on est tout prêt à entendre la suite. C'est-à-dire que les différentes catégories de définition qui vont exclure telle ou telle catégorie d'individus, de cette prérogative de définition, Israël, Yishlaïm, Chélek, Laolamaba, doivent s'entendre comme une faute d'être à ce niveau d'insertion. C'est encore un peu en figurique, mais on va voir tout de suite à la lettre. Ve'elou, Chélaïm, Chélek, Laolamaba. Et voici ceux qui aiment la haine, qu'il n'y a pas pour. J'aurais peut-être tendance, mais je vais trop vite, à entendre ce haine dans un sens aussi positif. Que ce yesh qui est la haine devient haine, la haine. Que cette réalité dont nous parlons, elle est là, mais absolument négative. Haine, la haine, et non pas yesh. C'est pas une négation pure et simple. C'est que ce point de leur être, ce relic de leur être, alors il est haï, il n'est plus yesh. Vous vous souvenez du verset de la rencontre avec Amalek? Le doute, lorsque le doute d'identité s'introduit en Israël, il est formulé de la manière suivante, et autant la sortie d'Égypte a légitime. Si vous voulez, nous allons rechercher les références, mais vous pouvez les retrouver par vous-même, dans Shmuel, à la fin de Peshawar. Alors, lorsque il y a ce doute d'identité, il est exprimé de la manière suivante. Hachem Bekirvenu Imaï. Aïesh Hachem Bekirvenu Imaï. Le verset aurait dû dire une lo, mais le verset dit aïe. Donc, dans la nigue, c'est simple à comprendre, on va traduire comme s'il y avait une lo. Est-ce que Hachem est en nous ou pas? Mais en réalité, dans le Nista, c'est plus profond, puisque c'est Nista. C'est ce Hachem qui est en nous. Est-ce qu'il est yesh ou aïe? Vous voyez quelle est l'équivalence qu'il y a? Chélek laolamaba, ça veut dire un jour. Mais l'indice à Kadosh Baruch Hu peut être en Israël, ou Yesh, ou Aïm. Je t'ai dit trois choses à la fois, mais c'est clair. Le Yesh et Aïm. Bon, donc il y a toujours l'espoir que ce Aïm redevienne un Yesh. Non, mais je voudrais qu'on entende ça dans les catégories métaphysiques. La Havaya peut être Yesh, Aïm. C'est clair? Non, c'est pas mal. C'est une manière de la Havaya qui est yesh, manifestée, présente, évidente. Une manière de la Havaya qui est haïn, apparemment absente. Mais elle est absente. Et si on réfléchit jusque-là, elle n'a rien.
Plus l'absence que
le vide. Et d'ailleurs, dans la halakha, il y a un concept qui est tout autre, mais qui peut nous permettre par analogie de comprendre un peu ce que je voulais indiquer ici. Le concept de Aveda, une perte. Aveda. sans doute quelqu'un qui a perdu quelque chose qui n'est pas à la veda. Entendez la, la collision entre vous. J'entendais un peu. Ba'al Aveda, Azma. Il est, donc c'est traduisible, il est le possesseur, il est le possesseur de quelque chose qui n'est pas là. Vous entendez ? C'est Ba'al Aveda. Et d'ailleurs, un peu plus loin, vous n'avez pas ici, mais notez-moi cela que nous le voyons dans les pages prochaines. L'endroit où se réunissent les renégats est appelé Be'avda, un nom de localité. Be, c'est bête, la maison de Be'avda. Il faudrait dire, si vous voulez, c'est littéraire, la maison des perdus. Vous pouvez entendre de quelqu'un qui est perdu. Ça veut dire la maison où se réunissent ceux qui ont perdu quelque chose. Mais il y a une trace de positive dans cette absence. Si vous voulez, c'est, moi j'appellerais ça peut-être, ça me donne un sens, enfin, on pourrait le définir ainsi. Ils sont tout en cicatrices. Qu'est-ce que c'est qu'une cicatrice, hein? C'est la trace de quelque chose qui n'y a plus. Je vais imaginer une planche, on l'a plantée un coup, et après on l'a enlevée. Il reste une cicatrice. Hein? Heureusement que donc, Enaël, chez les pharaons. Bon, c'était quand même un peu plus. Mais c'est, vous avez compris où nous allons. Ve'elu, chez Enaël, chez les pharaons. Premièrement, Haomer, c'est lui qui dit, En triatameti minator. Ça va être le sujet de l'étude d'aujourd'hui. Quelle est sa première catégorie et comment elle se définit? C'est celui qui dit, En triatameti minator. Je vous traduis de façon un peu ambivalente, comme nous traduisons habituellement, pour ensuite aller plus loin dans la traduction. Celui qui dit que la Torah n'enseigne pas qu'il y a résurrection des morts. En triatametim minatora. Celui qui dit en triatametim, il n'y a pas de résurrection des morts, minatora sous-entendu enseigné par la Torah. Comment caractériser cette quatre, cette secte, de laquelle nous sommes un secte c'est qui ça? Qu'est-ce qu'il prétendait qu'il n'y a pas de résurrection des morts enseignée par la Torah? Quelle secte a enseigné? Mais ça fait ça. Et voilà comment nous allons lire, comme on lit habituellement. Notez bien, parce que je vais tendre à changer radicalement la lecture, qu'on ne trouve pas explicitement dans l'enseignement de la Bible allusion à la résurrection des morts. Sinon, peut-être que certains historiens de la critique biblique diront que sortent dans les textes les plus tardifs, déjà sous influence chrétienne préfigurative. Parce...